Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 21 mars 2024. Au Sénégal, les candidats jettent leur dernière force dans la campagne qui s'achève demain.
Identifiez-moi comme la candidate des femmes, identifiez-moi comme la femme candidate, mais je l'assume pleinement. Par contre, je suis la candidate de tous les Sénégalais.
Nous ferons connaissance dans la partie magazine avec Anta Babaka Ngom, la seule femme candidate à la présidence du Sénégal. En Guinée, le tribunal chargé du procès du massacre de 2009 à Conakry a décidé de repousser une éventuelle requalification des faits en crime contre l'humanité au moment du jugement. Au Tchad, 42 personnes ont perdu la vie dans de nouveaux combats entre deux communautés. Les États-Unis ont fait circuler pour la première fois un projet de résolution aux Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken doit rencontrer demain Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les Sénégalais sont appelés dimanche à choisir entre 18 candidats, celui qui va succéder au président Macky Sall. La campagne se termine demain vendredi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
C'est la fièvre électorale dans les rues de Dakar avant la présidentielle du dimanche. Samba Tagué se joint à d'autres dans les allées du marché au tissu de Dakar. Comme beaucoup de jeunes, il voit en Bassirou Diomaye Faye la solution au problème du Sénégal.
Nous avons confiance en Diomaye. Il nous aidera à faire en sorte que les jeunes cessent de prendre la mer pour aller vivre à l'étranger. Ce qu'ils cherchent là-bas, nous l'avons ici. Le Sénégal est riche, mais nous n'avons pas de bons dirigeants.
Issa Diack, elle, fait partie de la minorité qui soutient la seule femme candidate, Anta Babaka Ngom.
Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Nous, les femmes, devons nous organiser. Nous pouvons rassembler toutes les femmes. Tout ce que les hommes entreprennent, les femmes peuvent l'entreprendre aussi. Anta en est capable.
Babacar Diagne, analyste politique au sein du groupe de réflexion Wati, basé à Dakar, estime que le vote des jeunes sera décisif.
Le Sénégal est un pays qui est composé majoritairement de jeunes. Seuls 15% de la population a moins de 35 ans. Donc la question de l'économie, la question de l'emploi, la question de création d'industrie, ce sont des questions aussi qui ont été abordées dans le cadre de cette élection présidentielle.
Les 17 hommes et une femme n'ont plus que quelques heures pour convaincre car la campagne se termine demain vendredi. Amadou Ba, le dauphin désigné par le président sortant Macky Sall, et Bassirou Faye, le candidat anti-système, affirment pouvoir l'emporter dimanche dès le premier tour. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est cité comme le possible outsider.
En Guinée, le tribunal chargé du procès sur les exactions commises en 2009 a décidé de remettre au moment du jugement une éventuelle requalification des faits en crime contre l'humanité. Nathalie Barge.
Après avoir entendu toutes les parties sur la requalification des faits requises par le ministère public, le tribunal décide que cette transition sera tranchée dans la décision sur le fond et en conséquence ordonne la continuation des débats, a déclaré Ibrahima Sori Tunkara, président du tribunal de première instance de Dixin, en renvoyant le procès au 25 mars. La justice guinéenne avait énuméré plusieurs qualifications, mais pas le crime contre l'humanité. Plusieurs organisations de défense des droits humains réclament la requalification des faits en crime contre l'humanité. Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats de Dadis Camara, a déclaré être surpris de la décision du tribunal, estimant que si la demande de requalification doit s'imposer au tribunal, c'est maintenant qu'il faut le savoir. Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens officiels répondent depuis septembre 2022 devant la justice du massacre de septembre 2009. Des membres des forces de sécurité et de la garde présidentielle avaient violemment réprimé un rassemblement de l'opposition dans un stade et ses alentours à Conakry. Au moins 156 personnes ont été tuées, des centaines blessées et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU.
L'ex-président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, sa femme Sylvia et trois de leurs enfants demandent à un groupe de travail de l'ONU de reconnaître leur détention arbitraire après le coup d'État de l'armée du 30 août 2023 selon une plainte de leurs avocats. La détention de Sylvia et de Nouredine Bongo ne respecte pas les normes internationales internationale relative au droit à un procès équitable, droit à un tribunal impartial, moyen de préparer leur défense, argumente Maître Zimeré et Finel, qui dénoncent aussi une discrimination à l'égard de l'ensemble de leurs clients fondée sur une origine, leur origine sociale, leur situation économique et sur des considérations politiques. Ali Bongo Ondimba a été chassé du pouvoir par un coup d'État, vous le savez, en août dernier. En Centrafrique, la justice a requis mercredi un an d'emprisonnement contre Crépin Bolingumba, coordinateur de la principale plateforme de l'opposition, jugé pour diffamation et outrage à magistrat. L'accusé, avocat de profession, a choisi lors de cette première journée de procès de se défendre seul, dénonçant les conditions illégales de son arrestation, sans toutefois répondre aux questions du ministère public. Le verdict de ce procès est attendu le 27 mars. Au moins 42 personnes ont été tuées dans des combats entre deux communautés dans l'est désertique du Tchad, où s'affrontent régulièrement cultivateurs et éleveurs. Les précisions de Nani Talani.
Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère tchadien de la Sécurité publique ne dit pas entre quels groupes les affrontements ont eu, ni pendant combien de temps. Des médias locaux assurent que les combats ont duré plusieurs jours. Ces violences ont aussi abouti à l'arrestation de 175 personnes. Une grande partie du village de Tilégué, dans la province du Wadaï, a été incendiée par des hommes armés. La situation est maîtrisée, mais je cherche à réconcilier les différentes parties, a assuré le ministre de la Sécurité publique. Le général Mahamat Charfadine Margui, qui se trouve sur place, à quelques 700 km à l'est de N'Djamena. Il est à la tête d'une délégation du gouvernement et de l'armée afin de faire la lumière sur ce nouveau drame. Ces genres d'affrontements meurtriers sont récurrents dans l'est et le sud du Tchad. Ils opposent souvent les éleveurs nomades arabes et les cultivateurs autochtones sédentaires.
Au Kenya, les hôpitaux tournent au ralenti ce jeudi, un peu plus d'une semaine après le début d'une grève nationale des médecins qui réclament de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales. Les médecins ont prévu de manifester demain vendredi devant le ministère de la Santé et plusieurs autres bâtiments officiels à Nairobi, comme le Parlement ou le Trésor public. L'Algérie a annoncé ce jeudi la tenue d'une élection présidentielle anticipée et ce sera le 7 septembre 2024, soit trois mois avant la date initiale. Prévu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont pour la première fois annoncé un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages dans la bande de Gaza assiégée et dévastée. Les bombardements incessants israéliens ont fait des dizaines de morts ces dernières heures. Le point avec Lionel Gaïma.
L'annonce des États-Unis a été faite hier par le secrétaire d'État Anthony Blinken en Arabie Saoudite, première étape de sa nouvelle tournée au Moyen-Orient qu'il a amenée ce jeudi en Égypte avant une visite demain en Israël. Nous avons soumis une résolution au Conseil de sécurité et nous espérons vivement que les pays la soutiendront, a déclaré M. Blinken, soulignant que toute trêve immédiate devrait être liée à la libération des otages. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont mis leur veto à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à des cessez-le-feu immédiat et durable. Les bombardements israéliens sous la bande de Gaza se sont poursuivis cette nuit. Le ministère de la Santé du Hamas a déclaré qu'au moins 70 personnes ont été tuées, portant le nombre de victimes à quelque 32 000 morts.
Ici aux États-Unis, le compte à rebours est lancé. Les élus du Congrès américain vont tenter par tous les moyens d'adopter avant la fin de la semaine le budget fédéral bouclé ce jeudi et écarter ainsi la menace d'une paralysie de l'administration. Les négociateurs de la Maison-Blanche, de la Chambre des représentants et du Sénat ont dévoilé ce matin un texte de 1 200 milliards de dollars censé financer l'administration américaine jusqu'à fin septembre. Ce texte doit désormais être approuvé par les deux chambres du Congrès américain avant vendredi soir pour éviter un assèchement des finances de l'État. Le département américain de la justice a engagé ce jeudi des poursuites contre Apple, la première action anticoncurrentielle d'envergure menée par l'administration du président Biden contre le fabricant de l'iPhone accusé de monopoliser monopoliser le marché des smartphones. Apple rejoint ainsi une liste de grandes entreprises technologiques poursuivies par les régulateurs américains, dont Alphabet, la maison mère de Google, Meta Platform et Amazon. Une trentaine de dirigeants européens sont réunis ce jeudi à Bruxelles pour un sommet inédit consacré à la relance de l'énergie nucléaire, un secteur délaissé qui retrouve les faveurs des États eu égard à l'impératif climatique, la nécessité de trouver des alternatives au gaz russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022 et l'engagement de l'Union européenne à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 ont ravivé l'intérêt pour le nucléaire. Et puis, des chirurgiens ont transplanté le rein d'un porc génétiquement modifié sur un patient vivant, une première qui représente un nouveau pas vers une potentielle solution à la pénurie chronique de dons d'organes, a annoncé ce jeudi un hôpital américain. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Dani Telani.
L'Angola promet de maintenir sa production pétrolière à 1,1 million de barils par jour jusqu'en 2027 au moins, soit son niveau similaire avant sa sortie de l'OPEP, a déclaré José Barroso, secrétaire d'État au pétrole et au gaz. Les gisements angolais ont décliné de 15%, mais c'est pour permettre à Luanda de produire davantage de gaz naturel et compenser une partie du déclin du pétrole. L'Angola essaie par ailleurs de constituer ses réserves pour attirer les investisseurs. C'est le deuxième exportateur de pétrole brut d'Afrique. En Afrique du Sud, la société minière de charbon Exxaro veut des accords pour acquérir des actifs de cuivre et de manganèse dans le cadre de sa stratégie de diversification, a déclaré son directeur général, Nombasa Twenga. Exxaro veut également profiter de la transition mondiale des combustibles fossiles vers une énergie plus propre. Pour terminer, l'économie du Kenya devrait connaître une croissance de 6,3% cette année contre 6,1% estimé en 2023, a annoncé ce jeudi le ministère des Finances, rehaussant ses prévisions précédentes. La croissance serait tirée par l'expansion du secteur agricole et des petites et moyennes entreprises, a indiqué le gouvernement dans le plan économique.
Last but not least, avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les rencontres du tour préliminaire des éliminatoires de la prochaine CAN Maroc 2025 se poursuivent.
Oui, à Marrakech au Maroc, Djibouti s'est incliné 0-2 devant le Libéria. Toujours dans le royaume chérifien, à Berkane, Sao Tomé et Principe fait face au Soudan du Sud demain vendredi. À Yaoundé au Cameroun, le Tchad affronte l'île Maurice. Hier, à El Jadida au Maroc, l'Eswatini s'est imposé 3-0 face à la Somalie. Les matchs retour auront lieu le 26 mars. Les vainqueurs du classement général se qualifient pour la phase de groupe des éliminatoires qui réunit 48 équipes. Les matchs se déroulent sur des sites neutres parce que les pays locaux ne disposent pas d'un stade aux normes internationales ou pour des raisons de sécurité dans le cas de la Somalie.
Dénouement ce jeudi dans la finale du foot féminin aux 13e Jeux africains qui se déroulent au Ghana depuis le 8 mars.
Le Ghana fait face au Nigeria bien avant le Sénégal et l'Ouganda jouent pour la médaille de bronze au stade sportif d'Accra. Hier en triple saut, Hugues Fabrice Zangwa a offert au Burkina Faso sa première médaille d'or dans cette compétition cette année. Le champion du monde en titre a réalisé un bond à 16,97 m, devançant le Sénégalais Faye Amat, 16,24 m. L'autre Burkinabé, Yacouba Loué, a arraché la médaille de bronze avec un saut de 15,86 m.
Ici en NBA, Boston domine son dauphin Milwaukee.
Les 31 points de Jason Tatum ont permis aux Celtics de résister au retour tardif de Milwaukee pour s'imposer 122-119. Grâce à leur succès face à leur dauphin, les Celtics enchaînent une 7e victoire consécutive en NBA et comptent 11 succès de plus que les Bucks. Il ne lui manque que 3 pour s'assurer la première place à l'Est et ainsi avoir l'avantage du terrain en play-off. De son côté, avec 22 points inscrits contre Philadelphie, Kevin Durant a dépassé Shaquille O'Neal et s'est emparé de la 8e place des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA grâce à ses 28 610 points. Il ne manquait que 8 points à l'Américain avant la rencontre pour dépasser l'ancien pivot des Lakers. C'est mérité, a déclaré O'Neal dans une vidéo adressée à Durant. Phoenix s'est imposé 115-102. À Cleveland, Miami l'a emporté 107-104 contre les Cavaliers et est 7e à l'Est à une victoire des Indiana Pacers, victorieux de Détroit 122-103. Leader de la conférence Ouest, le Thunder a glané une 48e victoire, la 3e consécutive, en battant le Utah Jazz 119-107.
Page des sports VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Comme les 17 hommes qui briguent la présidence au Sénégal, Anta Babaka Ngom tente de convaincre les Sénégalais de voter pour elle alors que la campagne tire presque à sa fin. Il lui reste moins de 48 heures donc. La seule candidate sillonne les rues de Dakar pour rallier ses sympathisants. Les détails avec Blanche Sanou.
Anta Babaka Ngom n'a plus que quelques heures pour convaincre les indécis et se faire connaître de tous les Sénégalais. La chef d'entreprise de 40 ans, patronne depuis 2015 de la plus grande entreprise avicole du pays, fondée par son père, Anta Babaka Ngom a pour ambition de briser les barrières et devenir la première présidente de son pays.
Je ne le vis pas mal, au contraire. Identifiez-moi comme la candidate des femmes, identifiez-moi comme la femme candidate, mais je l'assume pleinement. Par contre, je suis la candidate de tous les Sénégalais.
Son programme s'articule autour de la création d'emplois via l'aide au secteur privé, la protection de l'environnement, la gratuité des soins pour les plus vulnérables et une réforme du système éducatif avec des cours donnés dans les langues locales et non plus seulement en français. Anta Babaka Ngom, candidate à la présidence, s'explique.
Pour moi, l'industrialisation, c'est ma solution, c'est ma culture. Et c'est comme ça qu'on peut redynamiser l'économie sénégalaise en commençant par redynamiser le secteur primaire.
Le Sénégal passe pour un bon élève de la parité en politique. 44% des sièges de l'Assemblée nationale sont occupés par des femmes, un record en Afrique de l'Ouest. Certaines femmes ont été candidates par le passé à la présidentielle. Anta Babaka Ngom, la seule femme dans la course à la présidence, s'est engagée à améliorer les conditions de travail et la formation des jeunes et en mettant l'accent sur les femmes.
Les femmes au pouvoir n'oublieront pas d'aider réellement ces femmes. Et vous savez, une fois que l'on aura résolu les problèmes des jeunes, comme l'accès au travail, nous avons toujours dit que 50% des problèmes des femmes seraient résolus.
Pour Anta Babaka Ngom, au Sénégal, les femmes représentent la moitié de la population, mais elles vivent dans des conditions précaires et la plupart d'entre elles ne vont pas à l'école.
Au cours de mon premier mandat, les 5 premières années, je créerai 5 millions d'emplois pendant ces 5 années pour tous les jeunes, mais 2 millions d'entre eux seront consacrés aux femmes.
Anta Babaka Ngom espère que la large base d'électrices indécises pourra contribuer à faire pencher la balance en sa faveur lors des élections dimanche prochain.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les récentes perturbations de l'Internet dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Burkina Faso, la Guinée et le Ghana, ont mis en évidence la vulnérabilité de la connectivité dans la région. 4 des 5 câbles sous-marins reliant cette partie du continent à l'Internet a été endommagé. De grands opérateurs de téléphonie ont été touchés. Arzuma Compaoré s'est entretenu avec Ben Roberts, directeur de la technologie et de l'innovation chez Liquid Intelligent Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques sur le continent.
Ces câbles ont été construits en grand nombre au cours des 10 dernières années. Il y a 15 ans, il n'y avait qu'un seul câble en Afrique de l'Ouest, mais nous avons vu arriver un grand nombre de nouveaux câbles. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que les câbles, il s'agit aussi de la manière dont vous construisez votre réseau. Un certain nombre de pays touchés acheminaient leur trafic Internet directement vers l'Europe. Ils ne s'interconnectaient pas avec les pays voisins où se trouvent les points d'interconnexion Internet. Je pense que cela a aggravé la situation.
Et je pense que ça a aggravé l'effet.
Avec les travaux qui se sont déroulés cette semaine, tout le monde s'est empressé d'essayer d'obtenir de la capacité sur d'autres câbles pour que les réseaux soient opérationnels. Mais je pense que certains de ces pays, en particulier à l'Ouest, vont repenser la façon dont ils gèrent les réseaux. Le Nigeria va devenir, c'est déjà un grand centre de connectivité. Désormais, nous aurons un centre de connectivité beaucoup plus grand et nous verrons des changements se produire.
Qu'est-ce qui est fait finalement pour résoudre ce problème? Qu'en savons-nous?
Les câbles doivent être réparés, donc les navires qui iront les réparer seront mobilisés, prêts à appareiller. Il y en a un dans le port du Cap qui est un navire câblier, un navire de réparation de câbles en Afrique. Il y en a un à Londres, juste au large de la côte sud du Royaume-Uni et un autre au Moyen-Orient. Nous pensons que ce sont ces navires qui iront effectuer les réparations. Les navires de réparation de câbles sont très spécialisés. Ils ont des entrées de câbles des deux côtés du navire. Les câbles sont posés sur une sorte de jeu à l'arrière des navires de réparation de câbles. Ceux-ci doivent tirer le câble d'un côté du navire et le tirer à l'autre extrémité du câble. Et ils tirent les deux bouts au milieu dans une zone sèche. Ils soudent le câble.
À qui appartiennent ces câbles et qui est responsable des réparations?
Les câbles appartiennent à différentes personnes. Certains sont privés, d'autres appartiennent à des consortiums, des groupes de transporteurs et d'entreprises de télécommunications qui les possèdent ensemble. Il y a donc différentes structures de propriété des câbles. Et en les possédant ensemble, vous partagez les coûts.
Un mot sur l'importance de l'interconnectivité, de l'Internet en général pour l'Afrique. C'est votre domaine d'expertise.
C'est très important en ce moment. Ce que nous voyons, c'est l'émergence de nouvelles industries en Afrique grâce à l'Internet, à la combinaison de mobile money, qui est également en train de changer radicalement la donne. Et cette connectivité universelle, il est difficile d'imaginer ce que l'on deviendrait si l'on était privé d'Internet pendant quelques jours. Mais pour ce qui est de l'interconnectivité, nous constatons que les pays africains sont de plus en plus interconnectés les uns aux autres. Et nous voyons que cela va faciliter le commerce. Cela va permettre toutes sortes de choses. Cela va développer les économies des pays.
Ben Robert, directeur de la technologie et de l'innovation chez Liquid Intelligent Technology.
Alexandrine Cronogno avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Niger rompt sa coopération militaire avec les États-Unis. La junte au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine était illégale. Les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Quelles implications en termes de sécurité nationale pour le Niger? Quels sont les possibles scénarios futurs en termes de relations diplomatiques entre le régime militaire et les États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
La crise des migrants à New York, qui a commencé il y a près de 2 ans avec un afflux de Vénézuéliens et d'autres latino-américains, a vu tripler le nombre de migrants originaires d'Afrique de l'Ouest au cours de la seule année écoulée. Aaron Ranen nous en dit plus dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Dans le quartier de Harlem à New York, un groupe de migrants ouest-africains se réunit dans un restaurant pour déguster des plats africains traditionnels. Cette enclave, connue sous le nom de Little Sénégal ou Petit Sénégal, accueille chaleureusement ces nouveaux arrivants dont beaucoup ont affronté des voyages ardus et des gangs criminels pour en arriver là. Mamadou est venu du Sénégal. Il a demandé à ce que son nom de famille ne soit pas divulgué tant que son statut migratoire est en cours d'examen.
Je suis venu du Sénégal. Je suis allé au Maroc, en Espagne, au Salvador, au Nicaragua et du Nicaragua au Mexique. Mais il y avait beaucoup de trafic. Avant d'entrer dans le bus, ils vous arrêtent. Ils sont armés. Ils vous mettent un pistolet sur la tête. Ils vous demandent de l'argent et si vous n'en avez pas, ils vous prennent tout. C'est très difficile.
À leur arrivée aux États-Unis, beaucoup se heurtent à des conditions de vie difficiles et bien souvent à des attentes insatisfaites. Mamadou Dramé est le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique.
Tout le monde pense probablement, avant de venir en Amérique, que c'est l'endroit où il faut être. Ces migrants s'attendent à ce que l'Amérique améliore leur vie et la triste vérité est que lorsqu'ils arrivent, c'est une toute autre chose.
Ces migrants sont soumis à une période d'attente de 180 jours avant d'être autorisés à travailler, ce qui est une source d'incertitude pour beaucoup d'entre eux. Cet immigré sénégalais récemment arrivé a choisi de ne pas divulguer son nom alors qu'il cherche à obtenir un permis de travail.
Nous sommes ici pour vous parler de nos problèmes. Nous voulons juste travailler. Des emplois, tout simplement. Nous voulons des permis de travail pour pouvoir travailler et nous allons tous nous disperser.
Dans leur quête du rêve américain, ces migrants se retrouvent également pris dans le paysage politique, en particulier avec la position agressive de l'ancien président Donald Trump contre les migrants venus aux États-Unis illégalement. De nouveau, Mamadou Dramé.
La plupart d'entre eux sont préoccupés par ce que dit Trump, en particulier en parlant d'expulsion massive. Ils sont assez inquiets à ce sujet. Donc, ils sont certainement conscients de la situation politique aux États-Unis en ce moment.
Cordell Clear est une démocrate qui représente West Harlem au Sénat de l'État de New York. Elle estime que la question des migrants transcende les clivages politiques et que les autorités fédérales ont besoin d'accorder plus d'aide.
Je pense que nous devons nous unir et faire en sorte que des États comme New York, qui a absorbé tant de choses, obtiennent des fonds du gouvernement fédéral.
Alors que la saison électorale démarre et que les obstacles auxquels sont confrontés ces migrants nouvellement arrivés attirent l'attention des médias, ce qui demeure inébranlable, c'est leur aspiration à de meilleurs moyens de subsistance, en particulier avec le soutien de la communauté de Little Sénégal à New York.
Les analystes affirment que les électeurs américains doivent être vigilants face à la désinformation qui cherche à perturber l'élection présidentielle de novembre. Veronica Balderas-Iglesias examine comment les Américains perçoivent la menace des opérations d'influence et ce que le gouvernement et les organisations à but non lucratif font pour les aider à contrer cette menace. C'est un récit de Ginny Niwa.
Les services de renseignement américains travaillent sans relâche pour protéger les élections générales du 5 novembre 2024 de toute ingérence étrangère malveillante. Mais les tentatives de perturbation par le biais de la désinformation ont déjà lieu selon les analystes. Sean Minor est un analyste à Recorded Future, une entreprise privée dans le secteur du renseignement.
Pour tenter d'accroître la polarisation, de saper la confiance dans les institutions démocratiques américaines, et cela peut prendre la forme de simples messages sur les médias sociaux qui remettent en question le fonctionnement de la démocratie. Par exemple, si un acteur étranger estime qu'un certain candidat n'est pas bénéfique pour son rôle géopolitique, nous y voyons un effort visant à saper un tel candidat.
Les nouvelles technologies peuvent aider les mauvais acteurs à diffuser des mensonges plus facilement et plus rapidement, a averti le président de la commission sénatoriale du renseignement, le sénateur démocrate Mark Warner, lors d'une récente audition au Congrès.
Nous sommes confrontés à l'avènement de l'intelligence artificielle. L'AI apporte à grande échelle et à grande vitesse des outils pour interférer, désinformer. Je pense qu'il est essentiel que nous fassions un meilleur travail de manière bipartisane pour éduquer le public américain sur le fait que ce problème n'a pas disparu.
Les électeurs américains interrogés par la VOA ont déclaré être conscients de la menace, mais reconnaissent qu'il est difficile pour les individus de discerner la vérité des mensonges, en particulier sur les médias sociaux. Écoutons Kylan Weathers du Tennessee qui vit actuellement en Virginie.
Ils peuvent utiliser des logiciels d'intelligence artificielle pour, en fait, déformer ou modifier ce que la personne dit réellement.
Pour Sheila Debonis, c'est une tâche difficile.
C'est très difficile parce que souvent les auditeurs ne sont pas ce qu'on appelle des penseurs critiques. Ils croient simplement ce qu'ils entendent sur une plateforme particulière.
Les opinions varient parmi les électeurs sur la manière de relever le défi.
Joe Judge habite à Washington.
Je pense qu'il faut qu'il y ait une partie indépendante qui puisse vérifier ces informations. Parce que sinon, nous devons faire confiance à ces personnes ou à ces plateformes pour nous fournir les informations exactes.
Cole Thomas craint la censure.
Je ne suis pas sûr que l'on puisse faire quoi que ce soit à ce sujet sans censurer fortement l'Internet et d'autres choses de ce genre. Je pense donc qu'il incombe à chacun d'être un électeur informé.
Des efforts sont en cours pour donner aux électeurs les moyens de lutter contre la désinformation. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a déclaré à la VOA qu'elle avait conçu la page web Rumeur contre réalité où l'on peut trouver des informations fiables sur les élections américaines. L'organisation à but non lucratif News Literacy Project propose également plusieurs ressources pour aider les électeurs à distinguer la réalité de la fiction.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Pion à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.